Donc, Ariane Perge, je travaille comme conseillère pédagogique départementale dans le département de la Drôme. Et j'ai la chance de travailler donc avec Monsieur Joly sur cette mission dans les zones d'éducation prioritaire. Alors, très concrètement, dans la Drôme, les zones d'éducation prioritaire, c'est quoi? Ce sont quatre territoires. Pierrelatte, dans le sud, Montélimar, toujours un peu plus au nord, mais dans le sud, Valence et Romans. Ça représente à peu près 3500 élèves en école primaire et 8 collèges en RRS, en réseau de réussite scolaire. Donc voilà, sur le terrain, les équipes qu'on accompagne. Alors, par rapport à tout ce qu'a expliqué Monsieur Joly, comment les gens qui sont sur le terrain, dans les classes, dans les inspections, dans les établissements, vivent cette formation et cette transformation? Alors très clairement, au départ, mal. Ils le vivent mal, c'est très difficile. Et on va dire, au bout de quelques mois, il y a une transformation qui s'opère au niveau des équipes, ils se mettent en route, et je dirais qu'au bout d'un an, vous ne les tenez plus. Ils sont dans une dynamique autonome en grande partie, et ils sont extrêmement demandeurs. Donc il y a vraiment une transformation, et avec Monsieur Joly, aujourd'hui, on a du mal à répondre aux sollicitations du terrain. Il y a un an, il n'y avait pratiquement personne dans ce dispositif. On a commencé par l'expérimenter sur la circonscription de Valence 2, qui s'appelle aujourd'hui Valence Ville Éducation Prioritaire, car c'est effectivement une circonscription dans laquelle ont été regroupées les écoles qui sont définies sur un territoire CUX, donc un territoire de cohésion urbaine, enfin estimé des zones difficiles. Alors, je voudrais revenir sur le démarrage en fait de cette expérimentation, parce que mon travail en tant que conseillère pédagogique, c'est essentiellement d'être sur le terrain et d'accompagner les gens. Je fais un petit décroché juste sur ma formation et mon parcours avant de rentrer dans l'éducation nationale. J'ai travaillé pendant 10 ans en entreprise. J'ai une formation d'entreprise et de commerce. L'éducation des enfants m'a toujours beaucoup intéressée. J'ai fait le saut au bout de 10 ans. Après, j'ai commencé comme professeur des écoles en maternelle, puis en école élémentaire, et puis en zone d'éducation prioritaire. Et je m'y sens bien, j'aime ça. Et je trouve qu'il s'y passe énormément de choses et que c'est un très bon laboratoire pour la prise en charge de la difficulté dans toutes les écoles. J'ai également travaillé pour l'association pour le droit à l'initiative économique. C'est une sorte de une banque de microcrédit en France qui accompagne des gens qui ont décroché, des adultes qui ont décroché, pour créer leur propre entreprise. En général, ce sont des gens analphabètes ou illettrés. Alors, pour revenir sur l'expérimentation d'apprenance dans la Drôme, nous, on cherche à transformer trois axes au niveau des enseignants. Le premier, il concerne l'enseignement dans la classe. Le deuxième, c'est l'organisation au sein de l'école, parce qu'on ne travaille pas tout seul. Et le troisième, c'est le partenariat aussi avec les gens qui travaillent autour de ces enfants qui sont en difficulté, en dehors de l'école. En partant de l'apprenance, la première partie et la plus difficile, c'est de partir de la difficulté qu'ils vivent tous les jours en classe face à ces enfants pour la transformer dans une problématique. Alors, je donne des exemples concrets. À chaque fois qu'on va dans une école ou dans un collège avec Monsieur Joly, on commence par écouter. Écouter et rentrer en confiance avec les enseignants. Quand ils nous voient arriver, on le voit dans la posture des gens, il y a une méfiance par rapport aux formations. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous balancer? Qu'est-ce qu'on va encore devoir écouter? Qu'est-ce qu'on va demander de mettre en place alors que les écarts sont insurmontables? On les écoute. Alors les difficultés, à chaque fois on entend les difficultés qu'ils ont, c'est les élèves ne sont pas motivés, les parents ne parlent pas bien français, on n'a pas de moyens, il y a trop d'élèves, on ne sait pas comment faire, etc. On n'a pas le temps, les programmes sont trop lourds, on ne va pas y arriver, etc. Alors, comment passer de ces difficultés à une problématisation dans laquelle on va pouvoir rentrer en dynamique et aider ces enfants en difficulté? C'est vrai que les moyens, ils ne sont pas en augmentation. C'est vrai que les parents, il n'y a pas toujours les cris à la maison et qu'ils ne peuvent pas toujours accompagner les enfants. Et c'est vrai que les enfants ne sont pas motivés pour beaucoup. Alors, on leur propose tout simplement de partir de la réalité de la classe, de leur classe, pas d'une réalité fictive virtuelle dans une autre classe. On leur propose de filmer dans leur classe, de partir d'extraits de films de ce qu'ils vivent eux, et à partir des enfants qu'ils ont eux dans leur classe. Ce qu'on constate à chaque fois, c'est qu'il y a 3, 4, 7, 8 élèves qui ne rentrent pas en activité. Alors, sur ces 7 ou 8 enfants qui ne rentrent pas en activité, on va dire qu'il y a la moitié qui fait semblant. Ils écrivent la date, ils soulignent, ils regardent le professeur, mais ils ne rentrent pas en activité. Mais il y en a déjà 2, 3, ils font même plus semblant. Ils n'enlèvent pas la veste, ils sortent à peine le cahier et ils ne rentrent pas en activité. Alors, je reviens sur le mot confiance. Nous, on n'est pas là pour juger les professeurs. Parce que si on était à leur place, on aurait la même difficulté. On est là pour travailler ensemble. Et ça, on a réussi à travailler. Monsieur Joly a réussi, surtout en tant qu'IEN, à faire en sorte que ce soit une équipe qui rentre dans cette posture. Et ça commence par le directeur académique, par les IEN, les CPC, les chefs d'établissement, les directeurs, pour qu'on soit tous ensemble sur cette même posture. Et ça, c'est un travail de fond qui est très important et de terrain, et j'ai envie de dire de gestion des ressources humaines. Alors, le film. La première étape, déjà, c'est d'avoir des volontaires. Donc, toujours ce mot de confiance et de, dans quelle posture on se situe dans la formation. Et ça, cette première étape, l'écoute des difficultés des gens, elle est essentielle et il faut prendre le temps d'écouter ces difficultés. Aussi parce que les difficultés, même s'il y a des difficultés communes à tous les territoires, sur Pierrelatte, il n'y a pas les mêmes difficultés qu'à Montélimar ou qu'à Valence, et le militantisme n'est pas le même. Il y a des écoles qui ont toujours milité pour tel type d'enseignement, telle autre pour tel autre type d'enseignement, et bien qu'elles suivent les mêmes objectifs, elles n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas le même parcours, et il faut en tenir compte. Alors, on filme. À chaque fois, on a 5-6 personnes qui sont volontaires pour être filmées, pas la totalité de l'équipe. Ça fait trop peur de prendre ce risque, de se montrer. On est trop vulnérable dans sa classe pour montrer ce qui s'y passe. Et le fait de montrer ce qui s'y passe, ça peut détruire mon identité, pas seulement le miroir que j'ai de ce que je fais, mais ma réputation dans l'école, etc. Nous, on part avec les volontaires. Mais toute l'équipe est mobilisée. Avec les volontaires, on les filme. Et il y a une première étape qui est l'autoconfrontation, c'est-à-dire qu'ils vont se voir dans les films, ils vont se voir eux et ils vont voir les enfants qui ne rentrent pas en activité. Et très sincèrement, quand on leur montre le film, juste en leur posant des questions d'explicitation, comme on vient de les voir dans les 3 premiers films de Monsieur Joly avec les enfants, mais c'est le même principe avec les professeurs, ils trouvent tout seuls déjà ce qui ne va pas dans la classe. Donc ils problématisent assez vite. Et au lieu de commencer à parler des parents qui ne parlent pas français, des enfants qui ne sont pas motivés, du manque du moyen en classe, ils commencent à dire « Ah ben, il n'est pas rentré en activité. » Donc il est en train de parler de l'enrôlement. « Ah ben là, j'aurais pu venir le voir, j'étais au tableau, j'aurais pu me déplacer et venir peut-être lui expliquer en fait quelque chose. » Ça s'appelle l'étayage. « Ah ben lui, il n'avait pas compris qu'il y avait une relation avec la leçon d'avant. » Ça s'appelle le tissage. Et donc par les questions, on commence à poser des problématiques sur lesquelles on va pouvoir travailler avec eux et au sein de l'équipe. Ça, c'est la première étape. Passer de la difficulté vécue à la problématisation. Et ça, c'est vraiment difficile. Il faut que ce soit accompagné par quelqu'un qui est sur le terrain et qui part de la problématique de l'enseignant. Donc, autoconfrontation. Et puis, le but, c'est de travailler en équipe. On a bien dit tout à l'heure, transformer ce que je fais en classe, transformer l'organisation de l'école au sein de l'équipe et le partenariat. Donc il va bien falloir qu'on mutualise. Donc on prend des extraits, on ne va pas montrer des heures et des heures de film. Et à partir de ces extraits, on identifie avec M. Joly, on essaye, quelle serait la problématique prioritaire de cette école. Bien sûr, il y en a plein, mais il va bien falloir s'attaquer à quelque chose. La deuxième étape, une fois qu'on a problématisé, les enseignants, ils disent... chaque fois qu'il y a une formation, on nous explique les données, comment ça a été monté, la difficulté. Et c'est toujours dans les 10 dernières minutes de la formation qu'on nous dit, on va vous donner les outils pratiques pour répondre à cette problématique. Et ils veulent avoir des réponses assez concrètes. Donc la deuxième étape, et qui est très longue, c'est répondre à la problématique. Et encore une fois, c'est ce qu'a dit Monsieur Joly au début, on n'est pas des modèles, on n'est pas des super experts. Et quelque part, on n'en sait pas plus que eux. Nous, on a aussi notre histoire, on a notre parcours, on a nos formations et on va travailler en équipe avec les professeurs pour répondre à cette problématique. Donc nous, on leur propose des choses, le simplex dont a parlé M. Joly tout à l'heure, le multi-agenda, mais plein d'autres possibilités et des animations ressources avec des gens qui apportent une expertise. pour les maîtres formateurs, Monsieur Prouchet est venu à Valence. Hier, du centre de l'Est. Il y a Monsieur Boisseau qui est venu hier pour l'interaction en maternelle. Micheline Cellier va venir pour le vocabulaire. On invite des gens qui viennent nous apporter des ressources. Mais il suffit pas d'avoir ces ressources. Après, il faut les mettre en application sur le terrain. Parce qu'il y a toujours ce problème d'écart entre ce qu'on nous dit dans des animations comme ça. Et moi, ma classe, je fais comment avec lui et elle, et lui qui fait tomber les cahiers en permanence, etc. Et donc, on travaille en équipe sur des micro-transformations. Et à chaque fois, on dit, voilà, on va expérimenter ça. Mais c'est des choses toutes petites. Toutes petites. Et on les expérimente. On filme. On voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on adopte des choses. Alors, ce ne sont pas des transformations spectaculaires. Mais aujourd'hui, sur certains territoires, on commence à avoir un petit retour global. Par exemple, sur Pierre-Latte, au collège de Pierre-Latte, on vient de faire une réunion il y a 2 semaines avec le chef d'établissement et la coordinatrice du RRS. Et les classes sur lesquelles on a expérimenté l'année dernière, cette année, ils sont en 5, c'était la 6e 3. Et même les nouveaux profs qui sont arrivés sur ce collège, donc collège de Nerval à Pierre-Latte, ils ont constaté, alors qu'ils n'étaient pas au courant de l'expérimentation, que les enfants de cette classe avaient été transformés, ils ont pu se mettre au travail directement. Tout le monde rentre en activité, on n'est pas en train de dire qu'ils sont tous super performants, mais ils rentrent en activité et ils sont en train d'apprendre. C'est des enfants qui existent, ils ne sont pas ignorés par le professeur, même s'ils n'avancent pas. Et les résultats sont là. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape, c'est accompagner la transformation. Alors j'ai envie de dire que ça demande au niveau des équipes de circonscription et au niveau de l'accompagnement une énorme disponibilité, parce que ça demande à filmer pendant la journée, ça demande à être présent sur les animations après 4h30, entre midi et 2, les mercredis matins, et à être très près du territoire et du maillage physique sur le terrain. Voilà, donc là, c'est la transformation et l'accompagnement. Et la troisième partie, qui est la modélisation et la mutualisation, on commence cette année. Donc, on n'a pas encore grand-chose à dire, puisque c'est vraiment le départ. Voilà. Donc, voilà, c'était le témoignage de comment ça se vit sur le terrain. Donc, pour résumer, mal au départ, très grand inconfort de la part de toutes les équipes qui se disent « Attends, mais... ils n'ont rien préparé, ils viennent, ils nous disent il n'y a rien au stage, on nous demande nous, quelles sont nos difficultés et comment on va faire. » Et puis transformation des professeurs et des équipes de spectateurs à acteurs, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure à l'ADI, à l'Association pour le droit d'initiative économique, des gens qui deviennent chefs d'entreprise, ils se transforment, ils deviennent acteurs, ils prennent le risque. Et voilà.
Je sais pas, il y a peut-être d'autres inspecteurs dans la salle. Hein. Je suis pas le seul à essayer cette démarche. Alors pour moi, c'est passé par le fait que dans les rapports d'inspection, par exemple, j'ai laissé une place à l'auto-évaluation de l'enseignant, par exemple. C'est-à-dire que lui-même, il essaie de caractériser sa pratique professionnelle et j'en tiens compte. Voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire que j'avais acquis ça avec mon tuteur qui est de en formation, donc qui était Patrick Merdianian à Saint-Priest, qui m'avait donné cette mission pendant une année, c'est-à-dire que je l'accompagnais devant ses inspections et j'essayais d'avoir discuté avec l'enseignant en essayant de lui dire de caractériser lui-même sa pratique professionnelle pour qu'on puisse voir ça. Donc ça veut dire quand on ce type de démarche, elle est importante parce que l'acte de l'inspection c'est aussi très passif de la part des enseignants. Enfin, ils sont passifs non. Dans la classe, ils sont très actifs. Hein. Donc ils montrent beaucoup d'eux, mais ils ont de la peine à en parler. Donc on a commencé comme ça. Ça a permis d'arriver avec la vidéo, mais 3 ans après, quoi. Après ils ont vu comment je fonctionnais. Donc après j'ai pu amener la vidéo. Bon, c'est un détail, mais je ne sais pas si ça répond à la question. Mais
pas de réponse,
moi non plus. Ouais.
Alors moi je voudrais dire, parce que je travaille pour Monsieur Joly, que ce que je constate c'est qu'il gère, en vue de l'extérieur, il gère son équipe, que ce soit au sein de l'inspection, au sein des écoles et des collèges, comme un directeur des ressources humaines, dans le sens qu'il tient compte réellement de ce qu'est chaque personne, de son parcours, de sa formation, de ce qu'il est. C'est pas juste un professeur dans une école. Il fait confiance aux gens a priori. Et c'est une posture importante. Et du coup, les gens se ils décuplent leur énergie pour être à la hauteur de cette confiance. Après, voilà.
Allez, on prend vos réactions.
Oui. Je rebondis. Si vous pouvez leur dire qui vous êtes. Oui, pardon. Guillaume Serre, je fais un commentaire peut-être un tout petit peu en réaction à ce qui vient d'être dit juste là. Je pense que la confiance, ça suffit pas. Mais je dis ça, je veux pas être provocateur ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est bien plus que de la confiance, en fait. C'est pour ça que je le dis comme ça. Parce que je crois que ce que vous avez dit là, ça va bien plus loin. Il y a des gens qui peuvent tout à fait faire confiance, mais pas du tout faire la même chose que ce que vous faites, je crois. Parce que vous dites que vous concevez la formation à partir de la prise en compte de la subjectivité, c'est une de vos premières diapos. Donc ça renvoie à ce qui a été dit hier par Simon sur des formations orientées à activité, la prise en compte du réel, voilà, des choses qui sont en écho depuis ces deux jours. Et du coup, je pense que ça vaut le coup vraiment de théoriser ce que vous faites, parce qu'en fait, vous concevez des dispositifs de formation à partir de l'analyse du travail, pour moi, en partie, en ayant quelques principes forts, comme alors le principe de confiance, bien sûr, c'est quelque chose qui est nécessaire pour faire ça, mais ça va bien plus loin que la confiance. C'est penser que si les gens font des choses, c'est parce qu'ils ont des bonnes raisons de les faire, par exemple. Et ça, je crois que c'est essentiel. Et il faut connaître ces raisons d'agir pour pouvoir les quelque part initier un projet de transformation avec eux. Et autre pari que vous faites, je fais qu'en souligner deux parce qu'il me semble que c'est deux paris essentiels. C'est travailler à partir donc des raisons d'agir des personnes. Et la deuxième chose que vous avez pu souligner, qui va bien au-delà de la confiance pour le coup, parce que la confiance, il faut la voir avec ces gens-là, mais il faut surtout la garder. Et vous dites qu'il faut accompagner les transformations. Voilà. Donc je pense que trop souvent, malheureusement, par des contraintes de temps et des contraintes institutionnelles, on fait que, alors moi je le dis comme ça, mais c'est peut-être pas très juste, c'est un peu caricatural, on fait que réparer l'action. En tant que formateur, à chacun de nos niveaux, on fait que réparer. C'est-à-dire on arrive, on fait un entretien, on regarde ce qui a été fait, on fait une vidéo, etc., et souvent on essaye de réparer ce qui a raté et pas assez souvent on travaille dans l'autre sens, dans quelque chose qui viendrait préparer l'action, qui viendrait voilà, enfin, je le dis comme ça parce que il me semble que si on se donne comme projet de transformer les gens, il faut accompagner ces transformations et il suffit pas d'essayer de corriger ce qu'on vient de voir. Et il me semble que votre projet, il répond à ce principe-là aussi.
Qui veut la main, même pour dire des choses très différentes, ou demander des petites précisions, ralentir le débit de Monsieur Joly.
Geneviève Lafayette, CPCEPS Amiens, à Lyon. Une question très pratique, comment vous gérez les temps de formation? Parce que là, si j'ai bien compris, vous proposez des modalités de type stage, qui sont du coup dédiées à des enseignants qui sont volontaires. Comment vous répartissez après vos moyens en formateurs et en formation sur les autres collègues, ceux qui n'entrent pas dans le dispositif?
Pour décoder, peut-être que vous disiez ce que c'est les temps de formation, les 18
heures. Chaque enseignant dans une école doit 18 heures de formation continue. Alors après, si j'ai bien compris, Sylvain a pu, au niveau de la Drôme, mutualiser ou en tout cas mettre dans une même enveloppe les temps de formation pour après les répartir autrement. Est-ce que tout le monde rentre dans ce type de répartition ou est-ce que les enseignants, est-ce qu'il y en a qui restent sur un dispositif plus traditionnel comme ceux qu'on a l'habitude, nous, de manipuler?
Ce que la collègue dit, pour ceux qui ne connaissent pas bien le premier degré, les 18 heures, c'est 18 heures qu'on appelle d'animation pédagogique, c'est-à-dire, en gros, souvent, c'est des moments où il y a soit des conférences, soit des animations thématiques sur lesquelles les gens s'inscrivent. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Je fais la traduction pour ceux qui ne connaîtraient pas.
Pour la circonscription, hein. Donc les anciens circonscriptions, ils ont un crédit formation de 18 heures, donc je parle en crédit moi. Donc grosso modo, toutes les écoles de la circonscription acceptent le principe de l'apprenance actuellement. Donc ils ont 12 heures de crédit à à créer, à organiser au sein de l'école, sous la direction de du directeur. Et on organise 6 heures de ressources extérieures, mais qu'on peut augmenter en fonction des demandes. Pour l'éducation prioritaire dans les autres circonscriptions, on a des écoles qui sont à 12 heures, qui travaillent avec nous 12 heures, et puis qui ont 12 heures d'animation de circonscription. Le vrai problème, c'est pour les collèges, en fait. Voilà. Ça, c'est un énorme problème. Je suis pas spécialiste puisque je suis pas du second degré, mais par exemple, quand une équipe d'enseignants du collège dit on rentre dans le processus, eh ben, c'est pas facile d'institutionnaliser une formation pour un collège. Et ça, c'est un obstacle énorme. Parce qu'ils ont des procédures compliquées, il faut beaucoup négocier avec le rectorat, et en fait, voilà, là, on a un énorme problème. Après, pour les écoles, on utilise des stages écoles, on utilise des stages master, enfin, on a quelques marges de fonctionnement. Pour un collège, c'est extrêmement compliqué.
Les trois IEN qui ont des zones d'éducation prioritaire dans la Drôme, donc en dehors de la circonscription de Valenceville éducation prioritaire, ont inclus dans leurs 18 heures 6 ou 9 heures d'apprenance et ont inclus nos animations ressources en plus de ces 9 heures en optionnel. Et les professeurs du RRS sont prioritaires pour aller à ces animations optionnelles, spécifiques aux problématiques du RRS.
Et ça veut dire que dans le contrat de confiance, c'est tout à fait possible qu'il y ait des collègues qui, en fait, pour une année donnée, vous allez les voir moins que d'autres.
Ouais.
Ça fait partie de...
Oui. Après, nous, on répartit en fonction... Après, ça se négocie au niveau du directeur académique. Donc moi, j'ai sa confiance absolue là-dessus. C'est-à-dire que je donne un crédit formation et on n'a pas de feuille d'émargement. Voilà, Gaïa, tout ça, on le laisse un peu de côté pendant quelques temps. C'est-à-dire qu'il faut jouer le jeu. C'est un problème. Il y a un problème, mais là-dessus, il faut avoir cet accord. C'est-à-dire que lorsqu'une équipe s'engage, moi, je ne vais pas vérifier quand, comment ils ont fait leurs heures. C'est-à-dire, j'ai un contrat avec eux.
Gaïa, c'est l'application nationale qui contraint l'organisation de la formation dans lesquelles les circonscriptions et les établissements doivent se couler parce que ça sert à organiser après des statistiques nationales. Donc c'est un vrai problème pour un pilote de dire est-ce que je rentre dans le dispositif réglementaire ou est-ce que je peux m'en écarter un peu. Ça peut arriver que ça soit un problème.
Oui, Pierre Pariot, donc IEN du second degré. Donc moi je voulais justement savoir vis-à-vis de la continuité pour le collège, et notamment pour les élèves qui ont vécu cette formation, cette action, comment ça se passait, si justement vous étiez arrivé à mettre des formations en place pour les collègues du second degré, parce qu'il y a un travail à faire derrière, à créer des partenariats avec vos collègues inspecteurs du second degré.
C'est filmé, quoi. C'est un peu le problème.
On a le droit de dire que s'il y a des choses qu'ils ne souhaitent pas, qui restent dans la vidéo, qui pourra être mise en ligne, on l'enlèvera. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire.
Voilà. Donc, nous, on était surpris parce que les collèges, en fait, d'éducation prioritaire sont tous volontaires. À tel point qu'on n'arrive pas, ils veulent aller le filmer, ils veulent rentrer, etc. À l'heure actuelle, le corps d'inspection, les IPR du rectorat, ne nous suivent pas dans la démarche. C'est-à-dire qu'on a en parallèle deux modes de formation qui restent des modes de formation disciplinaires. Alors moi, je viens de l'EPS, mais dans l'EPS, il y a la boxe française, etc., etc., des thèmes didactiques. Et les professeurs du collège, on n'arrive pas à connecter leur demande de formation via l'organisme, enfin la DAF du directorat, on n'arrive pas à le connecter avec notre problématique. On commence à avoir des contacts pour organiser ça, mais c'est un problème parce qu'ils sont sur leur temps personnel, quoi. Clairement, les enseignants du second degré, ils rentrent là-dedans sur le temps personnel. On n'y arrive pas, ça ne veut pas dire que c'est peut-être ma faute, hein, voilà, ça vous pouvez le mettre.
Alors je voudrais juste rajouter que nous sommes en train de rentrer tout doucement par le groupe académique de lutte contre l'illettrisme, dans lequel je suis rentrée l'année dernière, et peu à peu j'ai commencé à prendre plus de place. Donc maintenant je pilote les actions innovantes et le partenariat avec la recherche pour l'Académie de Grenoble dans ce groupe-là, et ça a permis de rentrer dans ce partenariat cette initiative, entre autres. Du coup, elle est reconnue. Et par exemple, dans le plan de formation du CASNAV cette année, alors c'est juste pour les enfants nouvellement arrivés en France, élèves allophones arrivants maintenant, ce principe de formation est acquis pour cette année. Donc il y a toute une formation qui est faite sur ce principe pour l'accueil des élèves allophones arrivants. Et on va rentrer par ce groupe illettrisme, de lutte contre l'illettrisme. Voilà.
Non, parce que moi, je me posais la question, parce que je veux dire, enfin, je sais pas comment ça se passe à Grenoble, mais sur Aix-Marseille, on a la possibilité de créer des stages d'établissement, des stages de bassin, alors peut-être on a un plan de formation académique riche, j'en sais rien. Bon, nous, c'est jamais suffisant, mais je veux dire, il devrait pas y avoir de problème pour créer sur le collège en question la même formation que vous mettez en place pour l'école, quoi.
Peut-être qu'on en discutera dans la deuxième partie, quand on passera sur les questions de pilotage, de structuration des dispositifs, etc.
Vraiment, merci pour votre intervention. Je suis assez touché, notamment par rapport au projet qui est celui, on en a parlé hier, c'est Patrick qui en a dit deux mots, de ce projet de chez UNESCO sur la formation des enseignants, parce que là, je trouve que vous illustrez parfaitement, pour moi, le dialogue qu'on peut instaurer entre, au départ, des chercheurs, des formateurs, et des politiques et des inspecteurs. Et là, je trouve qu'on est en train de casser un peu ces frontières un peu étanches. On casse également quelques conceptions par rapport à ce que c'est que le métier d'inspecteur, par rapport à celui de formateur. Et je vois que là, ça circule et ça nous permet à tous d'apprendre. Et en tout cas, je crois qu'on est bien. Enfin, la façon dont vous parlez d'approcher le travail enseignant avec à la fois de l'humanité, une posture qui est la vôtre par rapport à la prise en compte du métier réel, sans forcément ériger d'emblée des bonnes pratiques, pour comprendre ces compromis, l'épaisseur du travail, et puis ces collègues hein, qui essayent de faire au mieux, mais qui s'en sortent pas toujours. Vous mettez en avant ce qui était pratiquement mes postures de chercheur. Il me semble que c'est pas du tout facile à adopter de façon spontanée, mais que c'est certainement la bonne posture pour pouvoir créer cette confiance et ensuite travailler sur l'activité. Alors, je partage complètement votre point de vue hein, de la défiance potentielle par rapport à l'usage de la vidéo. Travaillant, expérimentant cela avec des débutants, je m'aperçois que ça c'est peut-être plus facile comme mouvement avec des débutants qui ont peut-être une autre culture vidéo, mais que progressivement, soit on s'appuie sur les volontaires, soit on se sert de l'activité tierce, parce que c'est aussi une façon d'entrer dans l'activité, sans forcément mettre en danger les personnes qui sont qui pourraient être potentiellement exposées. Et je crois que ce mouvement-là est tout à fait important, parce que de travailler sur des traces d'activité, sur une activité prétexte, qui n'est pas forcément celle de la circonscription, celle de X ou Y, mais c'est tout d'un coup inverser la focale et ne plus simplement être dans une sorte d'attitude de repli, de refuge, d'évitement par rapport à une externalisation des responsabilités comme les parents et d'autres registres, mais c'est de se mettre vraiment à regarder sérieusement l'activité. Et prendre, donc c'est vraiment mettre la lumière sur l'activité enseignante. Et puis là, on ouvre vraiment d'autres horizons avec toute la difficulté, comme vous le dites, hein, d'arriver à analyser l'activité, de prendre le temps. Et ça met du temps. Parce qu'entre les premiers mots sur l'activité et ensuite la compréhension de catégories qui pourraient organiser l'activité, il y a un chemin à faire qui est long. Mais je pense qu'effectivement, un travail d'inspection, d'évaluation constructive et positive devrait permettre à chacun de construire ses outils réflexifs, on en parlait hier, pour reprendre la main sur le métier. Et à un moment donné, c'est pas un inspecteur qui vient mettre une note, ou en tout cas avoir un jugement qui tombe, mais c'est simplement se doter d'outils réflexifs pour sa propre activité, sa propre autonomie, son propre plaisir, en fait. En tout cas, merci pour cette intervention qui, pour moi, partage l'ensemble de nos présupposés par rapport à la façon de faire de la recherche et de la formation.
Ouais, moi, ce que je voudrais dire aussi, ce que ça me fait penser, c'est que il faudrait pas qu'on tombe dans non plus, une bonne pratique de circonscription. Et donc ça, c'est bien, c'est compatible avec Ténopas, c'est super. C'est pour ça qu'on vous a fait venir. Parce que ce que on souhaite ouvrir dans cette discussion là, et je pense que pour l'instant, elle est à peine ouverte, hein, c'est que travailler sur la question de métier des enseignants, c'est aussi travailler sur la question de métier des formateurs, des conseillers pédagogiques et des inspecteurs. Et sur, là aussi, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et pas de dire, il y en a des malins, et puis il y en a des plus ceci, il y en a des plus traditionnels. Vous savez, comme ce qui se passe dans les mauvaises conférences pédagogiques, où on dit, voilà la bonne façon de faire de la grammaire, voilà la mauvaise, et puis, dommage, vous êtes dans le bon camp ou pas dans le bon camp. Donc, je ne sais pas si on a le temps et si des personnes dans la salle souhaitent ouvrir cette discussion, mais en tout cas, moi, je souhaite qu'elle le soit, aujourd'hui ou plus tard, parce que ces questions du pilotage pédagogique de proximité, cette question de l'organisation du travail, des circonscriptions, des inspecteurs, etc., voilà, c'est quelque chose qui est loin d'aller de soi. Alors, il se peut que parfois il y ait des petits bouts de conditions qui fassent qu'on dise, bah tiens, voilà, ici ils ont avancé sur un truc qui, de leur point de vue, fait que ils se sentent un peu mieux dans leurs chaussures de métier. Et hier, dans la petite diapositive que j'essayais de présenter, c'était ça, hein, aussi trouver des équilibres pour qu'on soit un peu plus content de ce qu'on fait dans notre travail. Mais il me semble que poser cette question de c'est quoi l'inspection, c'est quoi l'animation pédagogique, etc., il y a plein de gens qui se la posent dans différentes manières, et ça vaut le coup qu'on installe aussi entre nous la controverse sur ça, hein, et qu'on soit pas, une fois de plus, à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est-à-dire faire la différence entre les bonnes et les mauvaises pratiques. Voilà. Donc j'ai vu plusieurs mains se lever. Une, deux, trois.
Oui, juste un petit mot. Vous avez parlé de plaisir, de confiance. Moi, je crois aussi, comme Guillaume, que ça va un petit peu au-delà. Et notamment, je crois que quand on reconnaît, qu'on permet aux professionnels de reconnaître le travail, notamment le travail enseignant, ça a à voir avec des questions de santé. Et je pense que c'est aussi une notion en ce moment qui mérite d'être travaillée, la santé au travail. Et notamment chez les enseignants, c'est pas un vain mot. Voilà, ça c'était un premier point qui peut-être mérite aussi d'être travaillé dans des questions de formation, parce que c'est souvent laissé de côté. En tous les cas, la formation est assez muette sur ce genre de questions. Le deuxième point, mais peut-être parce que vous n'avez pas beaucoup développé aussi, moi je serais curieuse dans la journée de peut-être de réfléchir aussi sur la notion de collectif. Peut-être qu'on y reviendra cet après-midi parce que Jean-Claude va présenter une manière d'organiser aussi ce travail, hein, et comment il a construit des collectifs de travail et comment de ces collectifs de travail finalement il y a des possibilités, je dirais, non pas là d'absorber des bonnes pratiques, mais peut-être de renormaliser, c'est-à-dire de se donner de nouvelles normes de travail, de métier, peut-être susciter des controverses. Alors des controverses autour de quoi? Ben, peut-être entre des débats de critères, et notamment on le verra là dans ce travail, sur notamment des critères de qualité. C'est quoi faire du bon travail, faire du travail de qualité avec des enfants par exemple qui sont nouvellement arrivés en France, ou des enfants dont vous parliez tout à l'heure, hein, qui sont dans des situations de très grande précarité. Voilà, c'est quoi faire du bon travail, et c'est quoi être efficace, être compétent, et comment on peut tirer une source de profit, de plaisir de ces situations de travail. Voilà. Moi, c'est sur cette notion de collectif, comment vous organisez ces collectifs de travail pour qu'il y ait ce genre de possibilités.
Sur tout ça, si vous avez envie de réagir à votre manière sur ce que vous entendez ou pas, enfin...
Je voudrais juste faire une remarque, c'est que hier, dans l'Académie de Grenoble, c'était la journée interacadémique FLE-FLS, pour les enfants nouvellement arrivés en France. Et l'organisation de la journée, on l'a faite de manière départementale, avec le directeur d'académie, avec les directeurs de CIO, les professeurs, etc. Et le but de la journée, l'objectif, c'était de savoir quels sont vos besoins de formation. Et ça a commencé par un bilan des formations des 5 dernières années. Pour savoir qu'est-ce que ça leur avait apporté, et en quoi ça avait changé la pratique des enseignants. Et on a, de façon très quantitative, sur la totalité des stages auxquels avaient participé les professeurs de CRI ou de FLE-FLS, à peu près la moitié des stages avaient changé leur pratique, et l'autre non. Alors, français, langue étrangère, et français, langue de scolarisation, et CRI, cours de rattrapage intégré, mais en décodé, ce sont les professeurs qui prennent en charge les enfants nouvellement arrivés en France qui sont allophones, qui ne parlent pas français. Demandeurs d'asile, regroupement familial, enfants de gens qui viennent travailler en France. Voilà. Alors, Ce qui est ressorti hier de la journée, ce qui est marrant, par rapport à ce que vous venez de dire, dans les besoins de formation, ce qui est vraiment, vraiment ressorti, c'était pas comment faire un cours de phonétique, comment leur apprendre à lire, c'était pas ça. Parce que ça, c'est des formations qui existent depuis longtemps et ils les veulent. Mais ce qui est vraiment ressorti, mais de façon criante, nous voulons, de manière institutionnelle, avoir un temps pour travailler collectivement. Et c'est pas au bon vouloir de chacun, t'es libre quand, on fait ça comment, par deux, par trois, on va mutualiser sur un blog, sur Internet. Il y a trop d'informations d'Internet, on sait plus où regarder, on perd trop de temps. Ils veulent un temps institutionnel pour travailler ensemble. Ils ont tous énormément de richesses, ils ont construit des outils incroyables sur le terrain, mais vraiment incroyables. Et ils veulent juste que l'institution reconnaisse un temps pour effectivement travailler collectivement. Voilà. Et c'est ce qui est ressorti, et c'est le bilan qu'on a donné à nos directeurs d'académie, il a bien entendu. Donc, voilà. Mais ça rejoint complètement ce que vous dites.
Je vais être un peu provocateur. J'ai eu le sentiment à qui je suis. Je croyais qu'on me connaissait, c'est pour ça. Gentil et Félix, je suis UN à Lyon 3, 3e arrondissement de Lyon. Je vais être un peu provocateur. Pendant 15 minutes, j'ai l'impression d'être sur la planète des bisounours. C'est où... tous les acteurs, parents et enfants compris, souhaitaient que les enfants réussissent à l'école. Et j'ai le sentiment que cette volonté n'est pas partagée par les cadres, notamment les directeurs académiques, qui restent, j'allais dire, pris dans la toile des statistiques, des tableaux, des Gaïa, etc., où ils ne voient plus la réalité. La seule réalité, c'est est-ce que je peux remplir la case ? Et vous n'imaginez pas les impossibilités pour faire son métier. Donc si vous le faites, et si vous le faites intelligemment, je vous en suis reconnaissant pour vous et pour les enfants et pour les enseignants. Mais à d'autres endroits, on n'a pas cette possibilité. Et je voudrais savoir aussi pourquoi vous utilisez autant de néologismes dans votre discours.
C'est quoi un néologisme ?
Apprenance, par exemple.
Je sais pas. Ça doit être ma raison subjective d'agir.
Alors, juste merci de nous aider à rentrer dans un débat sur les critères de qualité, hein, pour reprendre ce que disait Christine, les critères de qualité, le fait qu'on arrive ou pas à faire ce qu'on a envie de faire dans son travail, etc. Là, on parle du travail des inspecteurs ou des formateurs ou des conseillers, mais on voit bien que la boucle, il faut l'ouvrir aux trois niveaux si on veut pas rester, et je crois que personne ne souhaite être uniquement dans le monde des bisounours ce matin.
Donc Thierry Soutoul, là, je suis conseiller pédagogique sur la circonscription de Privas en Ardèche. D'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention, qui me touche particulièrement, puisque je suis aussi conseiller pédagogique de circonscription. Et donc, ma question, elle vise plutôt votre activité professionnelle, aussi bien d'IUN que de conseiller pédagogique. En quoi, en fait, ce dispositif, cette mise en place de cette démarche, peut-être qu'elle est trop précoce, ma question, mais en quoi elle modifie votre développement professionnel, qu'est-ce que vous, alors, en termes de santé au travail, en termes d'activité empêchée, pour rejoindre la question précédente, hein, comment vous avez réussi à... comment vous gérez tout ça et en quoi ça modifie votre propre développement professionnel ? Voilà. C'est peut-être un peu précoce, mais il me semble que dans l'idée de mutualiser ce type d'action ou de dispositif, je pense qu'on a tout à y gagner avec un retour sur votre propre activité et votre positionnement dans l'institution et sur votre développement professionnel. Voilà. Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que vous comprenez ma question ?
Oui, non, mais j'ai compris. Je ne sais pas si on a le temps. Je ne veux pas rentrer dans mon intimité.
Peut-être en quelques traits majeurs, peut-être de ce qui ressort dans les premiers temps.
Il est certain que.
Prenez les deux. Je t'ai coupé avant mais prenez bien les deux, puisque voilà.
Bah, le premier. Non, ce que je peux dire, c'est que j'étais dans le Rhône aussi. Et un grand département, c'est pas pareil qu'un petit département en termes de proximité. Ça, c'est extrêmement clair. Enfin, le directeur académique de la Drôme, enfin, moi, je vais avec lui dans les quartiers, quoi. Et je veux dire, enfin, c'est compliqué ce que je dis, mais c'est le métier, on le perçoit. Enfin, on parle des enfants nouvellement arrivés. Moi, j'entends des gens qui parlent de cases aussi. enfin, sur le terrain, moi, je les vois, les enfants, je vois les parents, j'écoute les histoires. Quand je retourne voir le directeur académique, je viens avec l'émotion, des fois même les larmes aux yeux, en disant, mais, on parle de ça, mais je vais vous expliquer ce qui se passe, quoi, sur Valence, les enfants qu'on a déposés d'un bus, etc., et ils dorment dans le parc Jouvet, dans un temps de Quechua, il fait moins 10. Le directeur académique, il a cette disponibilité-là, c'est un petit département, il écoute, il chemine, et il modifie, hein, on se modifie. Alors ça passe un peu sur la deuxième. Personnellement, je veux pas vous parler de mon parcours. Moi, j'ai été élevé dans les quartiers, voilà, j'ai toujours vécu là-dedans. On peut pas, voilà, je suis comme ça, j'ai ma propre raison d'agir. Ariane, vous avez parlé de mon parcours. Voilà, moi, il se trouve que j'ai été élevé à l'école à côté avec les enfants des abattoirs. J'ai toujours vu dans mon parcours. Moi, j'ai été en échec scolaire aussi. Je sais très bien ceux qui sont partis de l'école dans ma vie. Et puis je sais où ils sont maintenant. Voilà, soit en prison, soit bon, voilà. Bref, et ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Effectivement, j'en parle rarement, hein, mais on peut pas. Enfin, voilà, on est. Ça fait partie aussi de ça. Vous parlez de la santé. Moi, je suis d'accord. C'est soit moi je deviens fou, soit je me dis à un moment donné quelque part je dois être en conscience avec cet objectif-là, quoi. Voilà, mais c'est, voilà, un autre lieu, un autre moment, on peut en discuter plus. Ça m'ennuie toujours de parler de ça, parce que, mais effectivement, il y a de ça, même pour Ariane, ma vie. Il y a des moments, c'est aussi dur pour nous, hein. Et puis même pour l'équipe qui travaille avec moi, des fois, c'est dur aussi, parce que, il y a des moments où, ouais, on est pas toujours très bien, parce que, voilà.
Je voudrais dire que, par rapport à ce que vous avez dit, que c'est pas un long fleuve tranquille du tout. Aujourd'hui, on est souriant et disponible. On passe par des phases, très très dur, parce que forcément on est sur un public qui nous remet en question et ça ne suit pas toujours, donc c'est extrêmement dur et on passe par des moments difficiles, mais on y arrive parce qu'on communique beaucoup, qu'on communique en transparence, que ce soit au sein de l'équipe ou avec nos directeurs d'académie ou les UN avec qui on travaille. Donc des fois la tension est plus qu'importante, mais on met les cartes sur table et on y va et on met les choses sur la table. Et donc, des fois, c'est conflictuel et des fois, même, il y a des portes qui claquent et des gens qui partent et on revient. Mais c'est comme ça, c'est en toute transparence. Donc, voilà. Après, on ne peut pas...
D'autres questions, point de vue, réaction, agacement? Oui. Juste une chose, moi, que je voulais, on a discuté tout à l'heure avec Christine. Finalement, dans votre action, dans comment vous avez commencé, on se posait la question, mais finalement, ils ont fait quoi avec Néopass, réellement, avec les enseignants? C'est-à-dire qu'on voit bien comment l'entrée, je reviens pas sur ce qu'a dit Guillaume, l'entrée qui nous intéresse vous a irrigué, aidé, et rentré en relation avec votre histoire à vous. Mais finalement, concrètement, ça vous arrive de montrer des images de Néopass à des enseignants, en fait, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. On s'en fiche complètement, mais c'est une question un peu de curiosité personnelle.
Cette année, on le fait, oui. C'est-à-dire qu'on a téléchargé des séquences et on télécharge, on vous a vu, je vous regarde, on télécharge les groupes d'experts qui parlent de la séquence et on utilise beaucoup le simplex. Donc on utilise aussi l'explication qu'on a donnée du simplex. Donc, et puis la plupart des enseignants, maintenant, ont un compte. Il fonctionne. Donc ça veut dire qu'on apprend avec eux à analyser une séquence en fonction de ce que on prend la rubrique chercheur. Hein, on prend pas la rubrique, etc. Mais on prend systématiquement une séquence ou deux, on montre la rubrique chercheur. Et ils comprennent comment ça fonctionne par rapport à ça. Il faut un temps pour montrer ça. Parce qu'au début, ils comprennent pas ce que les chercheurs ont pu dire de la séquence. Ils trouvent que c'est décalé. Quand on a pratiqué ça avec eux, ils font le lien maintenant. Donc ils fonctionnent et ils sont autonomes. Il y en a qui sont autonomes. Hier, on avait une formation à Romans, ils ont travaillé. On a lancé la formation et ils ont fait le travail là-dessus. Donc, on avait 7 séquences téléchargées sur Néopass. Et 7. D'abord, ils ont fait leur analyse et ils sont allés voir les réponses des 7 chercheurs pour nourrir leur propre analyse. Mais par contre, ils ont besoin de nous pour décrypter. Enfin, c'est un peu ce qu'on disait, hein. Et après, ils ont besoin pour faire le lien et voir comment on revient à la pratique professionnelle.
S'il n'y a pas d'autres demandes, je vous propose qu'on fasse une courte pause, après quoi... Pardon, alors, dernière chose, excusez-moi.
Juste une question. Par rapport donc à la plateforme Néopass, où on travaille sur l'analyse de l'activité enseignante, il me semble que dans votre dispositif, vous avez introduit l'analyse, du moins des vidéos sur l'élève. Donc ces vidéos-là, si j'ai bien compris, vous les utilisez également pour problématiser auprès des enseignants leur pratique. Est-ce que vous voyez une différence, une plus-value sur ce, entre l'autoconfrontation avec sa pratique d'enseignant dans la classe et puis ces retours que font ces élèves sur le vécu de la tâche qu'ils avaient effectuée? Est-ce que...
Juste pour vous donner une clé aussi, parce que hier c'est une discussion qu'a eu un groupe en particulier qui dit dans Néopass, on aurait envie de voir l'activité des élèves, parce que quand on est conseiller formateur, quel discours on peut tenir à des enseignants si on n'est pas centré sur l'activité réelle des élèves qui n'est pas présente dans Néopass? Donc on a eu cette discussion un petit peu hier qui a tourné, on n'a pas vraiment repris, mais voilà.
Pour vous dire la vérité, on a commencé par la forme Néopass, mais ce n'est pas passé du tout avec les enseignants. Voilà. Par contre, les enseignants, maintenant, on va se centrer sur des gestes professionnels. La première fois qu'on a pu filmer dans les classes, on leur a dit, ils nous ont dit « oui, mais vous ne nous filmez pas, nous, tout de suite, on filme les élèves ». Les enseignants qu'on a filmé dans les classes versus élèves, ils sont d'accord maintenant pour travailler sur... On les centre la caméra sur eux, on travaille sur le simplex, on travaille sur le multi-agenda et les formes. Mais au début, on est rentré dans la classe en disant les élèves. Voilà. Alors ça, c'est très clair, ça a été très dur. Maintenant, on a des enseignants qui acceptent de faire ce qu'ils font sur le Néopass, on le fait. Voilà. Mais au début, c'était vraiment, on va regarder que les élèves. On les voyait pratiquement pas. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais les enseignants qui se regardent à la vidéo, moi, quand je filme des enseignants, après, je mets pendant le repas, je mets l'ordinateur, la vidéo, je leur dis si vous voulez regarder, et ils passent des heures à se regarder. Mais au début, c'est ce que le chemisier et truc, la tronche que j'avais. Ce qui m'est arrivé quand vous m'avez filmé au début, on se trouve mina, pas beau, etc.
J'ai passé une heure et demie à les filmer moi-même en entretien d'autoconfrontation, et je leur ai renvoyé les images. Ils ont dit que c'était totalement nul, pas intéressant, et que vraiment, voilà. Et par contre, dans le groupe de formateurs et de chercheurs Néopass, tout le monde est tombé de sa chaise en disant des gens comme ça existent. Merci.
Mais inversement, on est pas honneur de savoir comment les enseignants sur Néopass se laissent filmer aussi, parce que c'est pas, ils sont, ça, la caméra est centrée sur eux, c'est pas évident. Et nous, les enseignants, au début, c'est pour 50%, pour le moment, c'est impossible. Hein. Il faut vraiment prendre le temps, il faut qu'ils s'entendent. Enfin, c'est compliqué.
Je reviens juste là-dessus. Pour ceux qui travaillent avec la vidéo, avec les
enseignants ou avec divers professionnels, vous me direz si vous faites le même constat que moi et que d'autres ont fait, c'est que autant il y a une résistance inconditionnelle au départ qui est très grande vis-à-vis de la vidéo et qui est compréhensible, c'est-à-dire voilà, je vais venir dans la classe et je vais venir vous, et pas uniquement avec les enseignants, hein, les ergonomes le disent, je vais venir vous dans votre situation de travail et puis je vais vous filmer pour voir comment ça se passe. Il y a une grosse résistance inconditionnelle, mais en fait cette barrière, enfin en tout cas pour mon expérience, elle n'est pas tellement difficile à lever dès lors qu'on arrive à instaurer un cadre de fonctionnement qui met bien le travail comme objet de travail et pas comme objet de jugement. Et ça, ce n'est pas tellement difficile à faire. Enfin, de ma propre expérience, dès lors qu'on a travaillé un petit peu sur des vidéos ne concernant pas les gens avec lesquels on travaillait au départ, pour qu'ils comprennent qu'effectivement, on pouvait identifier des gestes professionnels, des façons de faire intéressantes, ainsi de suite, et que c'était bien un objet de travail... Très rapidement, ils ont accepté d'être filmés. Et je pense que le fait d'entrer par l'activité des élèves et de montrer comment ça peut être un objet de travail, ça peut être aussi, du coup, facilement une façon de dire, bah, regardez, la vidéo permet de travailler sur l'activité, ça, c'est intéressant. Vous faites ce constat-là aussi ou pas tout à fait?
Ce qui est sûr, c'est que le fait de voir d'autres enseignants, donc Néopass, les enseignants après, le fait de voir d'autres enseignants ont vécu la situation, c'est pour ça que maintenant on utilise beaucoup l'entrée par des vidéos que vous avez mis en ligne, qui montrent que bah voilà comment ça fonctionne. Et en fait, les enseignants après, ils se transposent en disant bah voilà, cette barrière, on n'aurait pas les vidéos de Néopass au début, ça aurait pas été possible.
Ah oui.
Et puis surtout, on a dit, bah, c'est l'IFE, c'est que ça. Voilà, il y a d'autres enseignants qui le font. On est dans un circuit, etc. Les enseignants ont dit, on se met dans une chaîne, quoi.
Ah mais complètement. Puis alors, au collège, le premier film qui est sur le site Néopass Action, Romain en troisième, hein, en cours d'allemand. Celle-là, ils adorent. Hein. On commence la formation avec ça, c'est bon.
Merci encore à nos deux collègues qui restent avec nous toute la journée. Quelques instants de pause et on rattaque après avec deux témoignages à la tribune.